Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est, je pense, pour moi, un perpétuel sujet où j'ai besoin de revenir souvent. J'ai besoin à chaque fois, réajuster ma pensée. C'est le sujet de la comparaison. La comparaison. Vaste sujet. Je pense qu'on va continuer à lutter peut-être avec ça jusqu'à la fin, jusqu'au départ, le grand départ, j'espère vivre quand même. Mais voilà, la comparaison, c'est un peu cette voix qui est avec nous, qui est avec moi, en tout cas, si je prends depuis qu'on a conscience de l'autre, l'autre étant, on va dire, l'autre, notre égal, quelque part. Ça va être quand on est enfant, ça va être, je sais pas, à Noël, quand on ouvre le cadeau. Et qu'on est une famille, on va peut-être comparer nos jouets, peut-être trouver que le jouet de l'autre est mieux. Ça va être aussi parfois le traitement qu'on reçoit des parents en comparaison avec nos frères et sœurs ou même avec des amis de l'école. Ça va être adolescente avec notre capacité à s'intégrer dans un groupe. Être, on va dire, peut-être la plus populaire pour certaines, ou la plus belle, je sais pas, en fonction des choses à la mode qu'on va avoir ou pas. Et adulte, en tant qu'adulte, en tout cas dans mon cas, je viens en plus d'un, je pense que c'est peut-être le cas aussi pour vous, mais je viens d'un, comment dire, une culture, je pense, où en fait il y a des marqueurs sociaux. Il y a des points de réussite sociale à cocher, en fait. À 25 ans, j'aurais dû... Je rigole. C'est un peu il y a longtemps. J'aurais dû être X, Y, Z, avoir 10 étapes. Et moi, je suis encore à la première, quelque part. Donc, je suis absolument pas dans les clous. Pour d'autres, dans d'autres cultures, ça va être d'autres marqueurs de réussite sociale. De standards atteints ou pas. Et quelque part, ce que nous sommes, si on reste sur cette manière de voir les choses, ce que nous sommes et ce que nous avons n'est jamais assez à nos yeux. C'est jamais assez parce qu'on va toujours se comparer. On va se comparer à une réalité qui est quelque part filtrée par tous les manques, par tous nos manques, en fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus vrai encore qu'il y a une trentaine d'années, je sais pas, parce qu'on a aussi beaucoup d'informations qui nous viennent de partout, parfois qu'on n'a même pas demandé, hein, avec les réseaux sociaux, etc. Où en fait, les gens qu'on va regarder vont quelque part présenter ce qu'ils veulent nous montrer de parfait quelque part dans leur vie. En fait, il y a des gens, j'en parle parce que avec les réseaux sociaux, on peut voir des photos qui sont nickel, un bon plan, etc. Mais si on tourne la caméra, on voit que tout le reste de l'appartement est peut-être dans un désordre pas possible. Mais nous, si on voit que la photo, on va se dire, oh, mais chez cette dame, c'est toujours bien rangé, c'est toujours propre, les fleurs sont toujours fraîches, etc., etc. Elle est toujours impeccable. Alors qu'en fait, ces gens nous montrent que la perfection, ce qu'ils pensent être la perfection pour eux, et si nous calquons notre vie à cette image un peu enjolivée de la leur, effectivement, on ne sera jamais satisfait. On ne sera jamais assez pour nous. Mais la question à se poser, et la question que je me pose quand justement je me surprends en train de partir dans la mauvaise direction de pensée, c'est comment Dieu me voit-il? Comment Dieu me voit-il? C'est une question que je me pose et je m'arrête souvent pour reconsidérer comment Dieu me voit. Parce que la comparaison, elle vient de ce que je pense que l'autre est par rapport à moi et inversement. Mais la vraie question, c'est comment Dieu me voit-il? Et si je cherche les réponses dans l'œuvre accomplie, là j'ai tout gagné. Je ne vais pas chercher les réponses dans l'ancienne Ève. Parce que si je cherche ces réponses à ce niveau-là, je ne vais jamais atteindre un standard. Enfin, je vais rester au niveau poussière un petit peu de la vie. Dire, faut que je change de vision, que je change de perspective, que je vois les choses comme Dieu, que je me vois comme Dieu. Et comment Dieu me voit? Bon, comme tu le disais, j'ai pu noter quelques infos, quelques pistes, quelques vérités. Il nous voit en tant qu'être unique. En tant qu'être unique. Marlise est unique. Nancy est unique. De la même manière que nous avons des empreintes digitales, je me faisais cette réflexion, on a des empreintes digitales uniques. Même mes vrais jumeaux ont des empreintes digitales. De la même manière, l'empreinte qu'on laisse dans le monde, qu'on laisse dans la vie d'un proche, de la même manière, c'est unique, en fait. La manière dont Dieu nous voit. L'empreinte qu'on va laisser sur cette terre dans la vie d'un collègue, dans la vie d'un voisin, je sais pas, est unique. Et je vais partager un verset dans Jean 10, versets 2 et 3, dit dans le second, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. En lisant le verset, en rapport avec ce que je disais avant, je me disais, il n'appelle pas le troupeau ensemble. Pas le troupeau, on y va. On va sortir. Non, il les appelle par leur nom. La Bible est suffisamment précise pour dire, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Donc, si Dieu nous voit, nous appelle par notre nom, on est chacune spéciale à ses yeux, pourquoi essayer de se comparer à une autre unicité, quelque part, en fait, à une autre particularité? On est suffisamment précieuse, unique à ses yeux, qu'on puisse simplement lever les yeux vers lui, en fait. Et c'est le même berger en Matthieu 12, 18, 12. Matthieu 18, verset 12. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée? S'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Donc, le même qui nous appelle par notre nom, c'est aussi le même qui viendra, qui est venu nous chercher le jour où déjà il s'est donné à la croix, le jour où on a dit oui, et qui continue de venir nous chercher. Chacune, quand on se perd, n'est pas submergé de toute façon par les pertes des unes et des autres. Il vient nous chercher, nous. Il ne se dit pas, alors j'en ai d'autres qui sont peut-être très bien et qui ne sont pas perdues. Et du coup, si on a une qui se perd, c'est pas grave. Elle est suffisamment importante qu'il vient nous chercher. Chacune pour lui est précieuse. Si Dieu accorde de l'importance à nos vies, on peut se dire que on a un abri au moment où les tempêtes émotionnelles se lèvent. Pour ma part, les tempêtes, elles se lèvent parfois pour un oui, un non, un silence, quoi qu'il se passe, une tempête peut se lever. Mais à ce moment-là, je me rappelle comment Dieu me voit-il? Est-ce qu'il vient me chercher justement au milieu de cette tempête? Oui, à chaque fois. Donc, je suis prête. En tant que femme, ce besoin d'être aimée, parce que quelque part, quand on se compare, c'est quelque part sur une jauge et pour être bien vue, etc. Donc, ce besoin d'être aimée est assez fort et c'est comme si on avait un réservoir à remplir. Et ni l'agitation, ni les pensées troublées, ni les activités, un peu comme Marthe, ni les autres, Très bien et très aimant. On peut avoir une famille aimante, on peut avoir des sœurs ou des frères en Christ très aimants, mais ils sont comme ils sont et ils ne pourront jamais complètement remplir ce réservoir et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ça passe par l'intimité avec Dieu, comme Marie le faire dans Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. On voit deux femmes qui reçoivent Jésus. Et Marthe qui, certainement, selon ce qui devait se faire à cette époque, et en termes de service, en termes d'hospitalité, était occupée, certainement en cuisine, à faire beaucoup de choses. Mais derrière, elle se met à se comparer à sa sœur. Et elle met Jésus un petit peu en arbitre de tout ça. Et il répond, ce qui est important quelque part, c'est d'être avec moi, d'être dans ma présence et d'écouter la parole. Donc, ce passage-là m'a particulièrement touchée parce que justement, même quand on est prise dans notre ministère, chacune à son niveau, on n'oublie pas que l'important, c'est d'être dans l'intimité avec Christ, même au moment où on est en train de servir quelqu'un. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de Christ, d'être à ses pieds. Alors, une petite anecdote pour orienter un petit peu la discussion vers quelque chose de très pragmatique, pratique. Il y a pas combien de temps, j'ai fait un atelier maquillage, make-up, chez une maquilleuse professionnelle qui est aussi chrétienne. Ça tombait très bien. Et donc, quand on commence l'atelier, elle me dit, est-ce que tu peux me donner des points sur toi, sur ton visage humain, que tu aimes? J'ai un peu réfléchi. Pourtant, je vois ce visage tous les matins quand je me brosse les dents quand même. J'ai le temps de l'observer. Mais j'ai un peu réfléchi et je lui ai dit, tu bon, mon nez peut-être. Voilà, je savais pas trop quoi dire. Et ensuite, elle me dit, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors là, j'avais une liste. J'avais une liste. Je n'ai pas venu prête, mais je pense que j'ai cette liste depuis des années, donc j'ai même pas besoin de la préparer. Et dans l'une des choses que j'ai citées, j'ai dit j'aime pas trop mes yeux, je les trouve pas, j'aimerais qu'ils soient plus comme Z. Là, j'aime pas trop ma paupière parce que bref. Donc je lui parle long et en large mes yeux. Et elle m'arrête, enfin elle attend que je finisse de dire ce que et ensuite elle me dit, mais en fait, déjà tu as des yeux qui fonctionnent, déjà. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas, peut-être qui sont aveugles, ouais, qui ont des problèmes déjà. Donc remercie déjà Dieu d'avoir des yeux qui fonctionnent. Peut-être de manière imparfaite, mais qui fonctionnent. Et en plus, tu me parles, elle me disait, tu me parles de ta paupière, mais moi qui suis en tout cas maquilleuse, moi, c'est le type de paupière que je préfère en plus parce que si je te mets une couleur, ça va se voir. On n'a pas besoin de chercher où j'ai mis la couleur. Et je l'écoutais, je lui dis, ah d'accord, c'est intéressant. J'avais pas vu les choses comme ça. Et elle me dit, si, enfin, pour toi, tu les trouves pas beaux, mais si. De la même manière que si j'avais une autre personne à maquiller, il y aurait d'autres qualités que je trouverais à ses yeux, même si elle n'a pas la même forme d'yeux que toi. Dans tous les cas, ton œil et son œil, l'œil de XY, vous avez des yeux qui sont. Donc ça m'a bien calmée pendant tout l'atelier. Je te disais, d'accord, je suis belle, d'accord. D'accord, mes yeux n'ont aucun problème. Donc tout ça pour dire, en fait, sur la notion même de beauté, est-ce qu'il y a vraiment une jauge qui va être mise pour des siècles et des siècles. Non, les standards changent. Donc si aujourd'hui je dis X est plus belle que moi, je me base sur quoi en fait d'abord pour... Parce que les standards changent. Aujourd'hui, peut-être être d'une manière, il y a 10 ans, c'était autre chose. Donc en fait, belle par rapport à quoi et par rapport à qui. Sur la notion de la beauté, l'esthétique, la beauté, ça fait partie de la nature des attributs de Dieu. Donc Dieu a fait la, Dieu est beau, il a fait la création belle, dans les moindres détails, même si aujourd'hui la création est déchue, elle reste, elle est quand même belle, en tout cas elle est belle, malgré la chute. On voit les saisons qui passent, et on voit des détails dans, on voit de la nature et on se dit, la création est belle, elle est déchue, mais elle est belle. Qu'est-ce qu'elle serait si elle n'était pas déchue? Avec cette information, on peut dire, il nous a créés à son image, on est beau. C'est pas totalement surprenant que nous soyons sensibles à la beauté. En tant que femme, je pense que c'est encore plus exacerbé, parce que voilà, ça se manifeste de différentes manières, ça va être le maquillage, les tenues vestimentaires, les accessoires, etc., etc. Mais la notion de beauté fait partie de nous et c'est pas un péché que d'avoir cette sensibilité-là. On le voit dans Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, etc., etc. sur la suite. Donc, il nous a créés à son image, il nous a créés beaux. Avec la chute, je pense qu'on continue d'essayer de rechercher cette forme de beauté. Mais la beauté, selon Dieu, dépasse ce que nous pouvons envoyer comme image par, je sais pas, la finesse de notre grain de peau, la couleur yeux, la forme du nez, etc. Ça va bien au-delà parce que, en vérité, nous sommes toutes belles et uniques. Comme je disais précédemment, Dieu nous voit uniques, Dieu nous a créées belles, nous sommes belles et uniques. Dans le psaume 139, versets 13 et 14, la louve seconde, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Vous êtes chacune belle, chacune unique aux yeux de Dieu. Et s'il nous a créés uniques avec ce bel éclat particulier, notre part, c'est de le laisser prendre la place dans nos cœurs, que cette beauté véritable, cette beauté qu'il a placée en nous, puisse rayonner dans notre cœur et aller de notre cœur vers l'extérieur, vers les autres. Cette beauté-là qui, que l'on cultive avec cette intimité avec Christ va bien au-delà de la beauté qu'on pourrait juste avoir, on va dire, physiquement. Je pense que vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'être dans la même pièce ou à côté d'une personne, d'une femme, donc, très beau, mais qui n'est pas très bon, bien, qui est acariâtre, qui est de, met une mauvaise ambiance. Quelque part, sa beauté ne sert à rien parce que l'expérience, la relation humaine qu'on pourrait avoir est quelque part, empêchée, en fait. La beauté que Dieu nous a mis, peu importe à quelque part à quoi on ressemble vraiment, parce que il nous a fait belle et unique, donc on n'a pas de jauge de comparaison quelque part. Cette beauté-là, cultivée de l'intérieur avec la présence de Dieu, avec une foi qui croit que Dieu l'a créée et a fait d'elle une créature merveilleuse, va rayonner dans la salle, va inviter, va pouvoir faire en sorte que les gens puissent se dire, dire, je voudrais bien être à côté de Wilda, de Corinne, de Lucette. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Je pense qu'elle a, c'est une belle personne, j'aimerais bien profiter d'elle. Donc, on est un peu loin du canon de beauté simple que l'on connaît aujourd'hui. On dit souvent, c'est la réflexion, on dit souvent que une femme qui se sait, qui s'aime, qui se sent aimée, est rayonnante. Donc, Christ, qui est notre premier amour, qui est notre véritable amour, en réalité, qui a fait le pas pour venir sur terre, a donné sa vie pour nous. S'il nous dit que nous sommes une belle créature, je sais pas s'il si y a d'autres, enfin, je sais pas, il y a d'autres standards, en fait. Donc, ne délaissons pas notre première véritable amour qui est Christ. Il a donné sa vie. Bientôt, nous serons avec lui, nous allons célébrer les noces. Mais en attendant, notre part, c'est de nourrir notre cœur, écouter sa voix, écouter sa voix qui nous parle de son amour, de son sacrifice, et porter attention à ses clins d'œil du quotidien. À ce moment-là, une fois qu'on aura fait cette expérience-là, on sera en paix avec nous-mêmes et on pourra inspirer les autres, inspirer déjà la paix chez les autres. Il n'y aura pas de système de comparaison quelque part, chacune étant consciente du cadeau qu'elle a reçu, de la beauté qu'elle a reçue en elle, elle va pouvoir inspirer la paix chez les autres. Offrir la grâce d'être qui ils sont en Christ, ou leur proposer Christ, pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Et on va pouvoir donner l'espace aux autres pour rentrer dans le plan que Dieu a voulu. Je voulais lire un passage de Psaume 34, 9. Psaume 34. Une belle personne va pouvoir dire, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. C'est ça être une belle personne. Emmener les gens, être déjà conscient de la beauté, l'unicité qu'on a aux yeux de Dieu et le proposer aux autres. Et si ça peut m'arriver. Ça m'arrive, comme je disais, je dois me faire des rappels, mais si vous n'en êtes pas là à vous dire je suis à ce niveau d'acceptation, ça peut arriver. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être des adolescentes qui justement se posent beaucoup ce genre de questions, dans ce genre de sujet, mais si vous n'êtes pas à ce niveau d'acceptation, priez que Dieu vous révèle ces choses-là, et il le fera. Il le fera, et je suis consciente de sa fidélité parce que. Même en ayant étudié la parole pendant des années, on a encore besoin de ces rappels-là. Et on pourra dans notre humanité, dans notre vulnérabilité, même dans nos tempêtes émotionnelles, on pourra toujours se dire que Dieu est celui qui, c'est celui qui nous a aimés le premier, qui nous a fait déjà belles. À aimer le premier et qui veut que notre beauté puisse attirer le monde à lui. Et il transforme, on peut, avec le temps, ça peut prendre plus ou moins de temps pour certaines, mais il transforme le cœur pour croire à ces choses-là par la foi. Et il nous transforme pour devenir la personne magnifique qu'il a pensée. Il va pas nous transformer pour être plus comme X, plus comme Y. Il va nous transformer pour qu'on lui ressemble de plus en plus, qu'on soit la personne qu'il a pensée dès le départ. Plus nous lui ressemblons, comme on le voit en Romains 12, 2 à 4, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est agréable. Soyez transformés. Et une fois transformés, petit à petit, on est encore dans le processus. À notre niveau, on peut être un air frais qui apporte le parfum de Christ aux gens. Et c'est bien plus intéressant que de se dire X est plus belle que moi.